Quand on joue au football, vous le savez, il y a un risque pour le cerveau. Il y a les commotions cérébrales, bien sûr, mais il n'y a pas juste les commotions cérébrales. Une étude scientifique assez particulière sur les joueurs de football universitaire de Montréal s'enclenche ces jours-ci. Et j'en parle avec le chef de cette étude-là. Je vous présente Louis de Beaumont, qui est neuropsychologue rattaché à l'hôpital du Sacré-Cœur. Il est titulaire de, attention, le titre est long, de la chaire de la Fondation Caroline Durand en traumatologie aiguë de l'Université de Montréal. Professeur de Beaumont, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, cette étude-là là, qui a été annoncée aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux qui va toucher les joueurs de football des équipes de Concordia, de Montréal, de l'Université de Montréal et de l'Université McGill. En quoi est-ce que c'est si ambitieux?
Bien, en fait, c'est un projet qui se tourne un petit peu vers l'avenir. Au cours des dernières années, on a beaucoup parlé des commotions cérébrales comme étant un vaste problème. Je pense que c'est le cas, effectivement. Mm-hmm. Mais on se rend compte de plus en plus dans la littérature scientifique que le simple fait d'accumuler des coups à la tête à travers d'une carrière pourrait être tributaire vraiment des problèmes que vont développer les athlètes un petit peu plus tard.
Donc, pas nécessairement des commotions cérébrales?
Non, absolument pas. C'est okay. Vraiment l'accumulation de coups, peut-être même à l'intérieur d'une même partie. On s'est rendu compte, le New York Times avait publié une étude qui avait suivi des athlètes sur toute une saison.
Ouais, ouais.
Il y avait des athlètes qui subissaient au-delà de 250 coups de 30 fois la gravité, mm-hmm. pour vous mettre en perspective, dans une auto de Formule 1, lorsqu'on atteint 4 fois la gravité, on dit que c'est très, très fort. Donc, mm-hmm. 200 quelques coups dans une saison, c'est énorme. Puis, on a commencé à voir qu'il y avait des dommages associés à ça, même chez des athlètes qui n'avaient pas subi de commotion cérébrale.
OK, donc, le disons, même si on n'a pas subi de commotion cérébrale, mais qu'on a des coups à la tête réguliers par des mises en échec, on tombe au sol, etc., ça peut être dangereux à long terme.
Bien, on est
ce qu'on soupçonne.
Exactement, okay. C'est ce qu'on soupçonne.
Et là, votre étude, OK, c'est assez particulier. Quand je dis que c'est ambitieux, c'est que vous allez faire des tests neurologiques à certains joueurs avant les matchs et tout de suite après les matchs. Comment ça va fonctionner dans la mécanique?
Absolument. Bien, il faut déjà dire qu'on a déjà testé de ces trois universités que tu as présentées tantôt, 38 joueurs en début de saison. Avant qu'il y ait tout contact à la tête, on les a testés sur 2 semaines. Là, ça a été vraiment rapide. Et par la suite, effectivement, dans les 24 heures qui précèdent un match, on va tester les joueurs avec l'imagerie par résonance magnétique. Il faut savoir qu'à Montréal, on est des grands experts de l'imagerie, de la neuroimagerie du cerveau. On a trouvé des séquences qui semblent affectées par les coups à la tête, où on okay. trouve des petites affaires qui se passent dans le cerveau. Donc, on va les tester immédiatement avant le match et tout de suite après le match.
OK. Et il y a une quarantaine de joueurs qui sont impliqués?
Il y a 40 de joueurs qui ont été déjà testés.
OK.
Et tout au cours de la saison, on va en tester de 3 à 6 par match. De sorte qu'on va avoir un échantillon après la saison, où on va avoir des mesures, tu sais, match par match, des effets sur leur cerveau.
Mais comment ça va marcher? Après le match, les gars se déshabillent, puis ah ouais dans le taxi, puis ah ouais à l'hôpital.
C'est exactement ça. Exactement ça. Lorsqu'il y a une partie qui se termine à 10h30 le soir, ben on fait du testing. Le 23 août dernier, on a testé jusqu'à 1h et quelques du matin. Donc, ces athlètes-là sont très engagés dans le projet. On doit les remercier d'ailleurs.
Et ce qu'on appelle, ils sont mis dans ce qu'on appelle un scanner, dans le fond, là. Et ce que vous faites, dans le fond, c'est que vous prenez une photo du cerveau avant le match, après le match, et là, qu'est-ce que vous pouvez voir, vous pensez?
Bien, on s'intéresse à 2 choses en particulier. Tous les changements métaboliques. Dans le cerveau, il y a des changements au niveau chimique qui se passent à la suite d'un match. Oui, qui sont dus à l'exercice physique, mais également qui pourraient être tributaires d'un certain changement dans l'intégrité des neurones. Donc,
okay.
c'est des substances chimiques qui sont libérées lorsque le neurone peut être abîmé ou dans une condition un petit peu lancinante, là, ou pas trop en santé. Donc, on va mesurer s'il y a des changements à travers un match. Et encore une fois, je tiens à répéter, pas chez des athlètes qui ont subi des commotions cérébrales.
OK. Parce que ça, c'est un autre domaine des dommages au cerveau, si
oui,
je comprends bien.
Oui, absolument. L'autre chose qui est importante à dire, Patrick, c'est que pendant le match, on place des capteurs télémétriques dans le casque de football.
Hein?
Puis on enregistre les coups qui sont portés à la tête avec les forces qui sont appliquées, également les angles des coups, pour pouvoir faire le lien entre les angles des coups et les forces et le dommage qui pourrait être observé à travers d'un match.
Mon Dieu, Louis de Beaumont, je sais que vous êtes neuropsychologue et habitué à travailler là, en recherche avec des outils sophistiqués, mais ça, c'est quasiment de la science-fiction, là.
Bien, ça existe depuis quelques années. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui le font, parce que ça prend effectivement beaucoup de ressources pour pouvoir le faire,
ouais.
hein, suivre des athlètes comme ça. Mais ce qu'on reçoit, c'est qu'à travers un signal Wi-Fi, là, tout simplement, on reçoit sur un iPad, sur les lignes de côté, toutes les forces qui sont appliquées au fur et à mesure du match. Puis on sait en temps réel là, lorsque des forces qui ont été appliquées sur le cerveau.
Si je comprends bien, là, disons le joueur qui s'appelle Thomas, là,
ouais.
Il a son casque et entre son casque et sa tête, il y a des électrodes. Disons, là, je résume.
Oui, oui.
Et là, s'il y a un coup là, à un endroit très spécifique, ben vous allez savoir que c'est à cet endroit-là qu'il a été frappé, c'est ça?
Non seulement on va savoir que c'est à cet endroit-là, mais on va également savoir l'angle du coup. Est-ce que l'angle projetait, disons, à 30 degrés vers le postérieur, vers l'antérieur, de sorte qu'on est capable de complètement reconstruire le coup en soi, le modéliser également.
Et après ça, en comparant avec les images du cerveau que vous allez prendre après le match, vous allez voir si un coup précis a eu un impact précis, c'est ça?
Exactement. Puis également, l'accumulation des coups, est-ce qu'ils ont pu emmener plus de dommages à travers le match?
Est-ce que ce genre d'études-là a déjà été mené, réalisé ailleurs avant?
Absolument pas. On va être les premiers vraiment à regarder les effets d'un match de football. T'sais, c'est la première fois dans le monde qu'on va le faire. La façon de le faire est également ambitieuse, de le faire pré-match, post-match. Mais c'est plus que ça également, c'est qu'on va le faire sur deux matchs consécutifs pour voir si le rouleau compresseur d'une saison de football, dans le fond, lorsque tu as eu un match, est-ce que, disons qu'il y a des changements qui vont être observés dans le cerveau, est-ce que le cerveau a eu le temps d'être rétabli avant de commencer le prochain match?
Si vous venez de vous joindre à nous, je suis avec Louis de Beaumont, professeur de Beaumont et neuropsychologue, mais c'est aussi un chercheur qui s'est penché et qui se penche encore sur les dommages causés au cerveau par, disons, le sport, les coups à la tête, etc. Donc là, ce dont il nous parle présentement, c'est une étude qui vient de lancer sur les coups à la tête au football. Et ce que je me demandais, professeur de Beaumont, c'est est-ce que vous avez choisi le football pour une raison particulière? Pourquoi pas le hockey, disons, où il y a aussi des coups à la tête?
Absolument. Le hockey est tout aussi intéressant. Le football, d'un point de vue expérimental pour un chercheur, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il y a une semaine d'écart entre les parties. C'est toujours...
Alors qu'au hockey, c'est vrai, les matchs sont juste le week-end.
Absolument.
Alors qu'au hockey, tu peux avoir 2-3 matchs par semaine.
Exactement.
En quoi ça vous aide, ça, dans votre étude, cette semaine de repos?
C'est que ça me permet d'évaluer exactement le temps. Si j'ai un temps constant de rétablissement du cerveau dans les mesures métaboliques, ben, je vais savoir, le cerveau ne s'est pas rétabli, en 7 jours chez tous mes athlètes, ou certains athlètes ont été rétablis. Alors qu'au hockey, s'il y avait juste 2 jours ou 3 jours d'écart, ben là, ça devient un peu plus compliqué de savoir si l'athlète s'est rétabli ou non, ou s'il se serait rétabli... 7 jours plus tard.
Avec cette étude-là, vous allez en apprendre plus sur l'effet répété des coups à la tête sur le cerveau, disons, sur la santé du cerveau.
Oui.
Tout ça lié au sport. Mais là, vous faites des études où vous avez placé des électrodes dans les casques des jeunes, de ces jeunes joueurs de l'Université de Montréal, de l'Université McGill, de Concordia. On va-tu pouvoir améliorer les casques après ça, peut-être, potentiellement?
Bien, c'est le but. Il y a 2 grands objectifs. Premièrement, c'est de savoir l'impact des coups à la tête, pas juste des commotions cérébrales, sur l'intégrité du cerveau. L'autre objectif majeur, c'est d'améliorer les casques. Parce que, comme je vous ai dit, grâce aux marqueurs télémétriques, on est capable de savoir quelles sont les régions qui sont vulnérables du cerveau. Où est-ce qu'il pourrait avoir des changements plus grands au plan métabolique? Où est-ce qu'il pourrait avoir des fuites de sang légères dans certaines régions du cerveau? De sorte qu'on va pouvoir aiguiller avec l'équipe d'ingénieurs qui font partie du projet quelles seraient les parties du casque de football qui ont besoin d'être améliorées pour protéger la santé du cerveau des athlètes.
OK. Bien, écoutez, le football, c'est une grosse business. Il y a la NFL, hein, qui est la grande ligue sur la planète. Il y a des fabricants de casques qui ont intérêt à faire des meilleurs casques. Comment ça se fait que cette étude-là, dont vous me parlez, elle n'a pas été faite ailleurs avant? Pourquoi se fait à Montréal sous l'égide de l'hôpital du Sacré-Cœur?
Bien, il y a 2 raisons. Je pense que ça prend du guts. Tu sais, c'est vraiment un projet qui n'est pas facile à faire. Ça prend toute une équipe. Tu sais, j'ai la chance de diriger une chaire de recherche qui vient avec des sommes imposantes. Vraiment, je suis très chanceux. Il y a également un programme de recherche au Québec, dans le fond du Québec, de la recherche au Québec en santé, qui s'appelle le programme Audace, qui nous demande d'être audacieux dans nos projets de recherche. De sorte que ça nous a permis de proposer ce projet-là pour la première fois, effectivement, dans le monde.
Est-ce qu'il y a une façon sécuritaire de jouer au football? Parce que ça demeure un sport de contact, c'est un sport très brutal. On a vu encore là, un joueur de le quart arrière de l'équipe des Colts de Indianapolis, M. Andrew Luck, qui a décidé, lui, que son corps ne pouvait plus suivre. Il est parti, mais ça dit quelque chose sur la violence de ce sport-là. Y a-t-il une façon sécuritaire pour le cerveau de jouer au football?
C'est une excellente question. Je pense qu'à l'heure actuelle, on doit se poser la question sur la sécurité de ce sport-là. L'objectif du projet, c'est justement de montrer, même si tu n'as pas subi de commotion cérébrale, est-ce qu'il y a des dommages? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut améliorer l'équipement de protection? Ça, définitivement. Il y a beaucoup d'efforts en ce sens-là. Mais la nature du sport va faire quand même que les athlètes vont se rentrer dedans 30, 40,
forcément,
50
là.
Fois par match.
Ben oui, ils vont pas commencer à se pousser puis arrêter de donner des mises en échec.
Absolument. Donc, la sensibilisation qu'on va essayer de faire à partir de notre projet de recherche pourrait amener vraiment le sport, on espère, à évoluer vers une pratique un peu plus sécuritaire.
On parle beaucoup de sécurité au football puis de la santé du cerveau au football. C'est quoi les autres sports qui devraient, disons, allumer des drapeaux rouges chez les parents par rapport à la pratique de certains sports?
Bien, actuellement, dans le football, on a la problématique que les coups, dont le sport impliquant des coups nécessairement, bien, arrivent très, très jeunes dans leur vie. Hein. Donc, aussitôt qu'on commence à jouer au football, il va y avoir des jeunes qui vont se rentrer dedans. Alors qu'au hockey, ce qu'on se rend compte quand même, c'est que les mises en échec, bien, il n'y en a pas jusqu'à temps que tu aies 15 à 16 ans.
Là. Et encore là, il faut jouer un bon niveau.
Il faut jouer un bon niveau même pour qu'il y ait ce sport-là. Mais c'est clair que, par exemple, les sports comme la boxe, les arts martiaux mixtes, ce sont des sports qui sont particulièrement dangereux pour le cerveau. Là, on le voit bien avec toutes les cas comme Adonis Stevenson et tout ça, là, il y a des dangers inhérents à se frapper la tête, là, je pense que c'est assez clair.
Ces jeunes-là, quand vous les avez, les jeunes joueurs de football que vous avez approchés, là, quand vous leur avez dit, écoutez, on va vous tester avant la saison, on va vous tester avant le match, après le match, on va vous rentrer dans un tube, parce que c'est un gros tube, hein, un scanner. Est-ce qu'ils étaient enthousiastes ou ils se demandaient quelle sorte de zozo vous étiez?
Ils étaient enthousiastes. Mais essentiellement, un des intérêts de travailler avec les équipes universitaires, c'est que les jeunes footballeurs sont des universitaires qui ont un intérêt également pour en savoir plus sur la santé de leur cerveau. Je crois qu'il y a eu quand même pas mal de sensibilisation qui s'est faite autour des risques associés à leur sport. Donc, ils veulent en savoir plus. Ils sont conscients également qu'on est là pour les aider, parce que c'est ce qu'on leur dit. Hein. On veut rendre le sport peut-être plus sécuritaire, essentiellement. Puis c'est notre job, en tant que chercheur également, de sensibiliser la population sur les risques inhérents à la pratique d'un sport, par exemple. Fait que eux-mêmes, tu sais, se sentent concernés parce qu'on parle vraiment de leur propre santé.
OK. Puis c'est une étude ambitieuse qui va étudier l'effet répété, professeur de Beaumont, là, des petits coups à la tête et des gros coups, évidemment. Puis à terme, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette étude-là? C'est quoi l'ambition?
L'ambition, c'est... cette année, c'est un peu... On teste la faisabilité du projet. Hein. C'est comme on n'était pas certain...
Une première étape.
Oui, exactement. On n'était pas certain de pouvoir tester jusqu'à 1h du matin des athlètes, mais la réponse est tellement bonne qu'on se rend compte que c'est faisable. Déjà là, on est content. On va passer à travers la saison, voir également tout ce qui va se passer au niveau du personnel. Est-ce qu'on va les épuiser? Mais je pense que l'objectif, ça serait d'aller vraiment dans un projet pan-canadien, dans les grands centres où il y a des IRM de très grande qualité. Okay. Je pense qu'il va y avoir une très, très belle réponse partout au Canada.
Donc, d'élargir au niveau canadien.
Oui. Okay. Essentiellement d'y aller pour le football et éventuellement, si la méthode s'avère fructueuse, se tourner vers le hockey aussi, où je pense qu'il y a vraiment des besoins également.
OK. Vraiment, vraiment intéressant. Écoutez, c'est une étude qui est lancée ici à Montréal sur un sujet qui est d'intérêt un peu partout dans le monde. J'en parlais avec Louis de Beaumont, neuropsychologue rattaché à l'hôpital du Sacré-Cœur, qui est titulaire de la chaire de la Fondation Caroline Durand en traumatologie aiguë de l'Université de Montréal. Bonne chance avec cette étude-là, professeur de Beaumont.
Merci beaucoup.
Merci.